Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies.
Stéphanie Villeneuve disait tantôt que lorsqu'on croise des gens, on commence à voir « Ah, je suis occupé, ah, je suis occupé, je suis occupé, c'est cool, hein, mais c'est cool de dire « On est occupé, là, ça marche nos affaires, on roule, puis tout ça, etc. » Des fois, par exemple, il y a des gens qui sentent le brûler, hein, parce que justement, ils roulent trop. Alors, du surmenage, on parlait de ça il y a plusieurs années, ça continue encore, il y en a qui pètent aux frettes. Nous allons parler avec Céline Morellon, directrice générale de Leaders de Valeurs, groupe conseil Inc. et experte en ressources humaines. Bonjour Céline.
Bonjour Richard.
Bonjour. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup d'employés, de cadres, de patrons, patronnes qui justement souffrent de surmenage?
Ah, définitivement. Les choses ne se sont pas améliorées avec la pandémie, puis ça m'étonnerait que ça s'améliore à très très court terme. Toute la technologie qui nous entoure, les heures de travail qui ont augmenté par semaine, la pression, le fait de gérer autant sa vie personnelle que la vie au travail avec nos agendas de ministre, les choses ne sont pas pour s'améliorer à très court terme, mais j'ai espoir.
Les femmes, bien sûr, sont les premières touchées parce que malheureusement, encore aujourd'hui, hein, qui fait le ménage, qui s'occupe des enfants, qui pense à la bouffe. Oui, les hommes participent plus qu'avant, mais c'est tout le temps ces femmes-là qui pensent qu'est-ce qu'il faut vouloir acheter pour l'épicerie, il faut chercher les enfants, etc. Donc ça, ben effectivement, plus la job, c'est double tâche et il y en a qui pètent aux frettes.
C'est certain que la charge mentale au niveau des femmes, on n'a pas besoin de s'étendre très longtemps. Tout le monde s'entend sur ce nouveau vocabulaire qui entoure la pression reconnue des femmes professionnelles, notamment à devoir gérer entre les responsabilités familiales qui n'ont pas beaucoup évolué avec le temps, mais les responsabilités professionnelles qui, elles, ont augmenté, et ce désir non seulement de performance, mais aussi de croissance à l'intérieur des organisations dans lesquelles elles sont. Et quand on parle de charge mentale, qu'on parle de santé mentale, parce qu'évidemment, quand on aborde le sujet de la surcharge, c'est parce qu'on parle d'anxiété reliée à tout ça, le trouble d'adaptation qui pourra aller jusqu'à la dépression, on se rend compte avec les études que c'est aussi beaucoup une question de perception. Et une perception très genrée de la répartition du temps puis de la gestion du temps. Donc, est-ce que les femmes ont plus de pression? Très clairement, la charge mentale, on en reparle, c'est établi. Ça, c'est clair. Mais en même temps, c'est aussi une question de perception de la répartition de notre temps et de notre énergie. Les études montrent que d'un côté, les femmes voient l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle dans un désir de donner plus de place au travail et donc de donner plus de place à l'accomplissement professionnel, alors que les hommes, qui seraient dans la même situation technique au niveau de la répartition du temps, eux voient la perception de l'équilibrage, donc de faire l'équilibre du temps, beaucoup plus pour consacrer du temps à la famille. Donc, juste cette perception-là et la rétribution, le sentiment que ça apporte, c'est pas du tout la même pression au niveau de la charge mentale.
Et Céline, ce qui contribue aussi au surmenage, c'est ça, parce que maintenant, on peut être contacté à tout heure du jour et de la nuit par notre boss qui dit... Et là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui demandent le droit d'être déconnecté, le droit de dire, quand j'arrive à la maison, là, je ne travaille plus, je suis chez moi, donc vous n'avez pas d'affaire à me contacter, à m'envoyer des documents, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, Céline, le droit à la déconnexion?
Mais on en a déjà discuté du droit à la déconnexion. Donc, je suis clairement pour le droit à la déconnexion. Il faut comprendre que c'est une responsabilité partagée. Oui, j'ai une responsabilité personnelle de gérer mon temps, de donner de mon temps à mon employeur et de m'assurer de rester en santé pour le faire. Et il y a aussi une responsabilité organisationnelle qui est celle de prendre soin de moi, prendre soin de mon environnement et de me mettre dans les conditions pour que je puisse donner la meilleure contribution possible. Donc, si la responsabilité est partagée, c'est clair que les employeurs ont aussi le devoir de réfléchir non seulement à la déconnexion, mais à revoir le terme travail. Qu'est-ce qu'on entend par attente de performance, attente de livraison, attente de disponibilité. Mmh. On peut plus se contenter du 35 heures, du 9 à 5, 5 jours semaine, que ce soit à distance ou en présentiel, comme étant un dogme, puis on n'y touche pas. Ça, c'est plus possible.
Donc, en disant oui, effectivement, je suis prêt, là, des fois, à traiter de certaines urgences ou de voir certains documents à la maison, parce que maintenant, tu peux me contacter, mais il y a une limite. Il faut imposer une limite. Il y en a qui ne connaissent pas ça, cette limite-là. Et autre chose, Céline, pour le surmenage.
Oui.
La carrière. Tu sais, on a une carrière. On veut avoir une carrière. Puis c'est le fun d'avoir une carrière, mais tu sais, c'est aussi très exigeant, très demandant. Il y a des gens dans la vie qui veulent pas. Ils veulent avoir une job. Mettons, je sais pas, ça serait vendeuse dans un magasin. Puis c'est très correct. Puis elle est bien payée, puis elle rentre le soir à la maison, puis elle pense plus à sa job, puis demain elle va retourner parce qu'elle travaille, je sais pas, dans un couche-tard ou une station d'essence, tu sais. Faut pas lever le nez sur ces gens-là aussi. C'est pas tout le monde qui est fait pour avoir une carrière. Puis avoir une carrière, est-ce que le jeu en vaut la chandelle aussi? Parce que des fois, là, c'est très, très, très exigeant. Des fois, il y a des gens qui veulent rien qu'avoir une job. C'est tout.
Mais en fait, j'ai envie de te challenger sur la définition de carrière.
Oui.
Tu peux très bien travailler dans une épicerie, tu peux très bien être vendeur, comme tu le dis, puis avoir une carrière dans la vente. Et encore là, on est dans la perception. Si le but, c'est de se dire que oui, la pression sociale que l'on se met, c'est de progresser, puis de devenir gestionnaire, directeur, VP, PDG, etc., puis que c'est la seule définition du succès que l'on se donne, mais c'est clair qu'on est dans l'erreur, parce que il y a des personnalités qui, elles, sont beaucoup plus à l'aise avec quelque chose de régulier, réconfortant à la limite, puis que il y a certaines personnes qui veulent juste avoir un travail alimentaire.
Et c'est correct. Moi, j'ai trois enfants, là, puis je pense qu'un de mes enfants, là, tu sais, c'est pas nécessairement une carrière, qui veut, c'est une job, mais tu sais, en même temps, il veut avoir des amis, puis avoir une vie personnelle qui est le fun, puis tout ça, puis tu sais, je commencerais pas à le pousser en disant non, faut que tu sois avocat, ou faut que tu sois, tu sais, faut que tu aies une carrière quelque part. Il veut une job, puis c'est tout. Et c'est correct aussi.
Mais en fait, il veut une job. Il veut surtout quelque chose qui va lui permettre d'avoir assez d'argent pour être autonome et avoir la perception de liberté, avoir une perception de choix. Et quand je parlais de redéfinition du travail, c'est aussi ça. Donc, comment on mesure ce que moi je te donne comme argent et ce que moi je te libère comme temps pour que tu puisses avoir ce sentiment de liberté d'accomplissement dans ta vie personnelle, tout comme dans ta vie professionnelle, carrière longitudinale ou horizontale. Peu importe, on est là dans l'obligation de redéfinir comment on travaille puis comment on est rémunéré pour travailler.
Et Céline, en terminant, tu es une experte en ressources humaines. Est-ce que les entreprises maintenant sont plus sensibles à ça? Là, quand il y a un employé, tu sais, parce qu'avant l'employé dit, je peux pas dire à mon boss que je souffre de surmenage puis que je suis fatigué parce que je vais paraître faible, puis la prochaine fois qu'il va donner une promotion, il ne donnera pas à moi cette promotion-là parce qu'il va dire... Cette personne-là est faible, est pas bonne, pas capable de prendre la pression. Est-ce que les entreprises, maintenant, on peut dire plus facilement à quelqu'un, à une entreprise, aller voir les gens en ressources humaines en disant, je suis vraiment là, j'en peux plus, j'ai besoin d'un break. Est-ce que ils sont plus prêts à entendre ça, les entreprises?
J'ai envie de te dire oui. Pourquoi? Oui. Parce que ce qu'on a vu... ce qu'on a vu évoluer, surtout un petit peu avant la pandémie, pendant la pandémie, jusqu'à maintenant, c'est une sensibilité à l'humain dans la prise de décision organisationnelle. Donc, on l'a vu beaucoup avec tous les mouvements d'équité, diversité et inclusion. Quand j'interviens en diversité et inclusion, on sent là cette ouverture, cette sensibilité-là à ce que les gens prennent plus soin d'eux dans les milieux de travail. Et de toutes les façons, le fait de ne pas avoir suffisamment de main-d'œuvre oblige à prendre soin de ce qu'on a de manière à les garder avec nous puis augmenter le niveau de rétention. Mmh. Donc, c'est pas juste pour les beaux yeux des employés, c'est aussi parce qu'ils ont pas le choix d'en prendre soin puis de prendre soin de leur santé mentale. Donc, oui, il y a ce désir et cette ouverture des organisations chez mes clients, je le vois. Par contre, les moyens ne correspondent pas aux besoins. Et c'est ça où il va falloir qu'on s'attaque dessus. Il n'y a pas suffisamment de moyens mis à disposition, non seulement pour permettre aux employés de prendre en charge leur propre santé mentale, mais de mis à disposition pour eux pour que le contexte soit favorable. Il y a encore trop peu d'organisations qui sont prêtes à travailler en télétravail, alors que ça fait 4 ans qu'on est là-dedans. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ça s'en vient.
Ah oui, puis il y a aussi maintenant on essaie de s'arranger pour que les climats de travail sont pas toxiques, hein, tu sais, avant un bon boss, c'est un boss qui criait après ses employés, lui il va avoir des employés performants et efficaces. Aujourd'hui, ça passe plus, heureusement. Merci beaucoup Céline Morellon, toujours un plaisir de te parler, directrice générale de Leaders de valeur groupe conseil Inc et experte en ressources humaines. Merci Céline.
Bonne journée. Bye.